Notre Dieu et Père, nous te remercions que nous pouvons nous approcher de toi et écouter ta parole. Nous te demandons que ce matin tu nous ouvres encore non seulement nos oreilles, mais surtout notre cœur pour recevoir cette parole de vie, cette graine que tu veux encore planter dans nos cœurs afin qu'elle puisse produire du fruit pour ton royaume, Seigneur, que nous puissions être des ambassadeurs de ton royaume, puissions être des témoins, Seigneur, de ta parole. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que certains peuvent deviner ce que j'ai dessiné? Je suis pas un très bon dessinateur. Pardon? Hamburger. C'est pour susciter en vous la faim. Pour la gaffe qui va suivre. Voilà. Hamburger. Alors, je vais prêcher sur le hamburger spirituel. Alors, comme souvent, je l'ai déjà cité, et je pense que vous devez le savoir. C'est quoi où se trouve le hamburger spirituel dans la Bible? Oh, qui est-ce qui dit ça? Oh là là, c'est toujours la même, hein, qui sait tout, là. Eh, hey, tu vas plus à l'école biblique, hein? C'est fini, hein? Tu vas devenir le professeur. Alors, c'est 1 Corinthiens 13, précédé de 1 Corinthiens 12 et de 1 Corinthiens 14. Aujourd'hui, je vais rajouter un complément à 11. 11 et le 14, voilà. Le hamburger spirituel. Alors, pourquoi c'est un hamburger spirituel? Bon, c'est un moyen mnémotechnique, hein, pour se rappeler des choses. Qu'est-ce que dit 1 Corinthiens 13? Alors, ça, tout le monde le sait. C'est lu à tous les mariages. Alors, l'amour. Voilà. L'amour. Voilà. Et qu'est-ce qui est développé dans 1 Corinthiens 12 et dans 1 Corinthiens 14? Regardez pas vos Bibles. Hein, on fait un petit peu de tentative de voir ce que vous avez retenu dans vos Bibles. Quel est le contenu de 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14? Pardon? Les dons de l'esprit. Les dons spirituels. Tout à fait. Tout à fait. Donc, dans 1 Corinthiens 12, il y a les dons. Et dans 1 Corinthiens, il y a les dons. Bon, on va pas prêcher sur les dons aujourd'hui, il y aurait beaucoup de choses à dire. L'exercice des dons, comment on exerce les dons? Un chrétien, il est doué. Vous êtes doué? Il y en a qui sont doués ici? Ben oui, vous avez des dons. Ceux qui ne reconnaissent pas les dons, c'est pas des vrais chrétiens, parce qu'on reçoit des dons de Dieu. Okay. Des dons naturels, des talents et des dons spirituels. Et donc c'est l'exercice des dons. Mais vous voyez, le Seigneur a permis que quelque chose d'important nous est rappelé, que tout cela se fasse dans l'amour. Mais il y a d'autres choses dans 1 Corinthiens 14, pardon, et dans 1 Corinthiens 11 que j'ai élargi pour faire un autre sandwich spirituel. Alors c'est peut-être un peu plus difficile, mais pas impossible à trouver pour ceux qui sont un peu, qui savent où je veux aller ce matin. Pardon? Ah oui, il y a le repas du, tout à fait, il y a le repas du Seigneur. Mais il y a aussi autre chose dans 1 Corinthiens 11 et dans 1 Corinthiens 14 qui aussi doit s'exercer dans l'amour. C'est un peu plus difficile à trouver. La prière, reconnaissance. Alors, qui est perspicace? Ben, la question, c'est le sandwich spirituel qui doit s'exercer dans l'amour, donc c'est les dons, mais il y a aussi d'autres choses qui doivent s'exercer dans l'amour et qui est très important dans l'Église, hein, en particulier Corinthe, ils en avaient besoin, mais nous aussi. Pardon? La correction. Je vous fais un peu languir pour que vous vous rappeliez du message. Alors, en fait, ce sont Ce sont deux choses, bon, que j'ai résumées personnellement. Dans les rôles, quels sont les rôles? Dans 1 Corinthiens 11, il y a les questions de rôle et les questions d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Parce que dans l'Église, il y a besoin, bien sûr, des dons. Hein, il y a besoin aussi de l'exercice du respect de certains rôles et du respect de l'ordre, que les choses se fassent dans l'ordre. Hein. L'ordre, ça ne veut pas dire la rigidité, hein, mais ça veut dire que l'inverse du chaos, l'inverse du désordre. Hein. Et en fait, ce thème, ça touche le ministère féminin. Voilà. Donc je termine. Je vais essayer de vous donner quelques grandes lignes sur ce que moi j'ai compris du ministère féminin et tel qu'on le vit dans l'Église. Ceci étant, c'est un sujet très difficile, mais c'est pas parce qu'il est difficile qu'il faut pas l'aborder, hein, controversé, et que ceux qui pensent autrement, moi je les respecte. Simplement, c'est une conviction personnelle avec mon épouse que nous avons sur le ministère féminin, tel qu'il s'exerce dans cette Église. C'est important que vous le sachiez. Étant donné qu'il y a différentes façons de voir ou d'interpréter les textes. Donc, je vais essayer de parler de ce ministère féminin dans l'exercice de l'amour et je vous donne le passage clé qui se trouve dans 1 Corinthiens 16, verset 14. Il est dit que parmi vous, tout se fasse avec amour. Vous voyez? Le sens spirituel, que tout se fasse avec amour. L'église de Corinthe était très, très désordonnée pour différentes raisons, mais entre autres, la localisation de Corinthe était un port où il y avait beaucoup de proxénétisme, beaucoup de choses vilaines qui se produisaient. Et donc une influence, vous voyez, hier on a parlé d'influence au niveau des hommes. Ceux qui sont jeunes hommes, hein, venez dans la réunion d'hommes, on parle de sujets passionnants qui peuvent vous aider à grandir. Et cette notion d'influence, en fait, on est tous influencés, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience de l'influence pour nous préserver de la mauvaise influence. Et donc, cette influence de l'environnement de Corinthe sur l'Église faisait qu'il y avait une tendance à confondre des rôles qui étaient donnés par Dieu et d'amener le désordre, le chaos. Je voudrais juste reprendre, pour ceux qui n'étaient pas là, mais en termes de conclusion, le passage de 1 Timothée 2, 10 à 15, hein, qui parle aussi du ministère féminin. En fait, il y a comment dirais-je, versets clés, versets ou passages clés qui sont problématiques dans l'Église de Jésus-Christ par rapport au ministère féminin. C'est ce passage-là, Corinthiens 11 et Corinthiens 14. Donc, on a tous là réuni les passages problématiques, difficiles, qui ont amené l'Église à avoir des attitudes très, très différentes par rapport au ministère féminin. Je voudrais redonner simplement le message, enfin la conclusion du message sur 1 Timothée 2, de 11 à 15, qui pour moi est tout simplement lié à un verbe qui est utilisé dans le verset 12. Il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni prendre autorité sur l'homme ». Le verbe « autotein », qui est un verbe en grec, qui a plusieurs significations. Certains traducteurs ont choisi, la plupart, de le traduire « ni de prendre autorité sur l'homme ». Mais ce verbe peut prendre une autre signification qui, à mon avis, donne sens à l'ensemble de ces versets, du verset 11 au verset 15, qui est que ce verbe est utilisé dans des sectes qui mettent en valeur le ministère féminin au-dessus du ministère masculin et qui peut se traduire de la manière suivante. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, virgule, ni de se présenter elle-même comme origine de l'homme, mais elle doit se conformer aux Écritures. Donc l'autorité, c'est comme origine, parce que dans la plupart de ces sectes, eh bien, qui d'ailleurs envahissaient l'Église, Et tous les apôtres ont été confrontés à cette hérésie dans les églises ou dans cet enseignement sectaire. On enseigne que c'est Ève qui a donné la vie à Adam et pas Adam qui a donné la vie à Ève. Il se base sur une interprétation tordue où, bien sûr, Dieu a mis un profond sommeil sur l'homme et ensuite il s'est réveillé. Donc, en fait, vous voyez, c'est une interprétation tordue. Mais cet enseignement a infiltré les églises et Paul a dû rectifier. C'est pour ça, au verset 11, il dit « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Il a dû rectifier l'erreur qui se répandait dans les églises et qui était répandue par des femmes, parce que ça glorifiait bien sûr la femme. Et du coup, le verset 15 se comprend de soi, parce qu'au lieu de dire « elle sera néanmoins sauvée en devenant mère », un peu comme s'il fallait devenir mère pour être sauvée en étant femme, si elle persévère, la vraie traduction du contexte, avec le contexte, peut se traduire de la même manière, de la façon suivante. Les femmes sont acceptables devant Dieu tout en étant mères. C'est pas le fait d'être mère qui change quelque chose. Mais dans ces sectes-là, la femme, pour être sauvée, il fallait qu'elle soit comme l'homme. C'est-à-dire pas d'enfant. Et si elle avait un enfant, il fallait qu'elle avorte. En tout cas, qu'elle n'ait pas d'enfant, parce qu'il fallait qu'elle soit comme l'homme. C'était en fait l'inversion des sexes pour avoir un unisexe quelque part. Mais donc c'était une déformation du féminin, une déformation de la femme telle que Dieu l'avait fait. Et ça on le retrouve aujourd'hui. Pour ceux qui pensent qu'on est à l'abri de cela, c'est pas vrai. Parce qu'au 19e siècle, il y a eu une montée de l'occultisme qui est venue très très fort à la fin du 19e siècle. Et le démarrage du Nouvel Âge, en particulier Madame Blavatsky, qui était russe, qui a passé par la France, qui est allée à New York, et qui a fondé le mouvement du Nouvel Âge, qui est un mouvement de ce type-là, féministe. Et c'est le féminisme qui a commencé à enseigner ces choses. Et aujourd'hui, le Nouvel Âge pénètre partout dans notre culture, y compris dans les églises. Donc nous ne sommes pas à l'abri, nous sommes tout à fait dans cette même, disons, ce même danger que l'étaient les premiers chrétiens. Je voudrais tout d'abord, par rapport à ces trois passages, donc celui-là, je l'oublie dans le sens où on l'a déjà traité, et il ne concerne pas du tout le fait qu'il est interdit à la femme d'enseigner dans l'Église, mais il est interdit d'enseigner ces choses-là, voyez-vous ? Le fait que c'est la femme qui est avant l'homme, qui est source, qui est origine. Et d'ailleurs, au travers de ça, si vous réfléchissez bien, vous tombez sur la religion de la mère et de l'enfant, qui, dans l'Église catholique, se traduit par la Vierge Marie, mais qui simplement est une ancienne religion païenne qui a commencé déjà avec Nimrod et Sémiramis, donc qui se trouve dans toutes les cultures païennes du monde entier. C'est le matriarcat de la mère et de l'enfant. Donc, une fois qu'on a gommé ça, Paul est tout à fait pour le ministère de la femme dans l'Église. Mais certaines églises, certains courants d'église s'appuient là-dessus pour demander à la femme de se taire, ce qui est pour moi tout à fait aberrant. Pour revenir à ces deux passages, 1 Corinthiens 11 et 1 Corinthiens 14, on va les lire pour que vous ayez la parole de Dieu, parce que moi je crois que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Que ce soit dans les Corinthiens, ou que ce soit dans les Galates, ou que ce soit dans les Évangiles. Hello. Donc moi je prends au sérieux toute la parole. Je mets pas de côté certains passages qui me gênent. J'essaie de les comprendre parce que Dieu les a inspirés. En tout cas c'est ma démarche. Et je voudrais juste vous laisser un passage clé, bien sûr, qui est utilisé par tous les théologiens pour justifier en fait leur position et qui est juste. C'est dans Galates. Dans Galates, il y a un passage, disons, qui est fondateur, qui est un principe, où au verset 26 du chapitre 3 des Galates, il est dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Ce passage montre bien qu'il y a une égalité de valeur entre l'homme et la femme. En Jésus-Christ, nous sommes tous pareils. Mais ça ne veut pas dire que ça gomme les autres passages. Donc il faut bien expliquer les autres passages, où il y a une différence marquée des rôles entre l'homme, la femme, le masculin et le féminin. Et entre autres, j'ai oublié tout à l'heure, le mouvement d'influence sur les genres, hein, ça aussi, ça procède exactement de la même origine féministe et gnostique, hein, qui est en train de pousser l'humanité à se rebeller contre Dieu. En fait, c'est de la rébellion contre Dieu. Donc, on va lire 1 Corinthiens 11, de 2 à 16. Alors, il faut bien s'accrocher à vos chaises, hein, parce qu'il est très clair, enfin très très tranchant, ce passage. « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, hein, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume dans ni les églises de Dieu. Donc Paul déjà coupe toute contestation, hein. Ça commence bien. Ce qui est dit, c'est l'autorité de la parole. Et ces passages-là, s'ils sont lus en lecture directe, en lecture très fondamentale, eh bien, obligent les femmes à se voiler. Donc aujourd'hui, vous, les femmes, vous n'auriez pas pu prendre la Sainte Cène sans le voile. Alors, est-ce qu'il faut... Non, mais attends, on n'est pas là pour contester. Je dis simplement, dans certaines églises, vous n'auriez pas pu, c'est tout. Ici, on vous donne l'autorisation, mais pas dans certaines églises. Je respecte ces églises-là, d'ailleurs, mais je cite ce qui se pratique à cause de cette lecture. Donc, je voudrais venir au cœur de ce que Paul est en train de dire, hein, comprendre le cœur. Et le cœur de ce qu'il est dit, il parle de rôle. Alors, il faut bien faire une différence entre la fonction et la valeur. Il y a un malentendu, chez les chrétiens particulièrement, qui est dommageable, entre la fonction et la valeur. Est-ce que vous faites bien la différence entre une fonction, hein, et la valeur de quelque chose? Prenons une image que Michel prend, il aime bien les bonnes images, entre un lave-vaisselle et un lave-linge. Vous voyez la différence entre les deux? Si vous mettez de la vaisselle dans du lave-linge, comment ça va sortir? C'est pas tout à fait fait pour ça, hein. Vous pouvez essayer. Bon. Les fonctions sont différentes. Une fonction, c'est pour laver le linge. Et l'autre fonction, c'est pour laver la vaisselle. OK. Mais en général, c'est à peu près le même prix. Hein. Si, je sais pas, une machine coûte 400 euros, l'autre vaut à peu près 400 euros. Bon, je simplifie, hein. Donc la valeur est la même. Hello? Vous faites bien la différence entre la valeur d'une chose et la fonction. C'est parce que la valeur est la même que les fonctions sont les mêmes. Ben, c'est la même chose avec la compréhension de ces passages-là. Galates dit que la valeur entre un juif, un grec, un esclave, un libre, un homme, une femme, sont les mêmes. Ils sont créés par Dieu et en Jésus-Christ, ils sont un. Il n'y a pas de différence de sexe, si vous voulez. C'est une relation spirituelle, d'autant plus que dans le ciel, il n'y a pas de sexe. Donc déjà, ça commence bien. On ne parle pas de sexe à ce niveau-là. La valeur est une valeur en Jésus-Christ. Amen. Vous connaissez tous votre valeur en Jésus-Christ, hein, notre identité en Christ, c'est ça qui est important. Eh bien, ça, c'est la valeur. Mais pour autant, des fonctions sont différentes. Je vais prendre un exemple pour vous aider à comprendre la différence. Le fonctionnement d'un train. J'essaie d'imaginer le fonctionnement d'un train. Un train, ça roule pas tout seul. Il y a un conducteur du train. Même dans les TGV, il y a un conducteur. Bon, dans certains cas, ils essaient de supprimer les trains automatiques. Le conducteur, il dirige le train. D'accord? Il est là pour diriger le train, pour le mettre en route, pour freiner, enfin, pour conduire le train. Mais il est soumis à un certain nombre de personnes. Quand il rentre en gare, il est soumis au chef de gare. Vous êtes d'accord? Le chef de gare, il prend soin des passagers, ce qui n'est pas le cas du conducteur, pour qu'il rentre, pour qu'il ne tombe pas sur la voie, et c'est lui qui donne le feu vert pour démarrer quand tout est en sécurité d'embarquement. Il y a des contrôleurs aussi dans les trains. Contrôleurs pour différentes raisons. Bon, ils regardent le ticket, mais en gros, ils regardent aussi la sécurité, l'ordre dans les wagons, et heureusement, parfois, ils sont là, parce que ça calme un petit peu certaines personnes. Bon, donc, ils ont un rôle différent du conducteur, et qui est important. Vous aimeriez qu'il n'y ait plus de contrôleurs dans les trains? Je pense que ce serait un petit peu difficile. Après, il y a d'autres personnes qui s'occupent de toute la voie ferrée. Il y a les aiguilleurs. Vous voyez tous les aiguillages, quand vous regardez, c'est compliqué. Bah, ces aiguillages sont là pour gérer tout ce qui passe sur la voie. Parce qu'il y a des trains de marchandises aussi, il n'y a pas que les trains de voyageurs. Donc il faut que tout ça soit réglé, il faut qu'ils attendent, parce que les marchandises, on peut les faire attendre. Donc ils attendent sur des voies, et ensuite après ils prennent que deux voies, sinon il faudrait faire 36 000 voies pour acheminer les marchandises. Donc les agents d'aiguillage dirigent le trafic des voies. Et le conducteur est soumis à la décision de l'agent. Si l'agent met un feu rouge parce que il y a un train qui est en train de passer, s'il passe, il va faire un accident. Donc cette soumission est protectrice pour l'ensemble du train et des voyageurs qu'il a avec lui. Donc chaque fonction, je viens de décrire des fonctions, diriger le train, s'occuper des voyageurs, contrôler les voyageurs, diriger le trafic des voies, tout ça ce sont des fonctions, mais ce sont des personnes derrière qui ont la même valeur. Ce sont des personnes humaines. Donc chacun a une fonction de direction tout en restant soumis à quelqu'un. L'aspect soumission est important. On ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'il y a une règle, chaque fonction a sa règle qui doit être acceptée par l'autre. Donc c'est un ordre établi dans ce travail de voie ferrée. Or, sur le plan spirituel, alors, il n'y a pas que ces passages-là, mais beaucoup de passages nous montrent qu'il y a un ordre spirituel. Il y en a qui croient à un ordre spirituel. Et qu'est-ce qui décrit cet ordre spirituel? Qu'est-ce qui définit cet ordre spirituel? Ce sont les hommes? Non, c'est Dieu. C'est lui qui a créé toute chose. Il a créé le spirituel, le matériel, et le spirituel, c'est celui-là qui va rester éternellement, puisque le matériel, il va changer. La terre et le ciel passeront, mais le ciel ne passera pas. Parole ne passera point. Donc le spirituel est premier. Il est fondateur, il est fondamental. Et Dieu a établi un ordre spirituel dans les relations. Il a décrit des ordres spirituels dans beaucoup de domaines, mais dans les relations. Dans nos relations les uns avec les autres, c'est Dieu qui a défini un ordre spirituel. Et si cet ordre est respecté, eh bien, nous pouvons nous attendre à un résultat tel que Dieu l'a prévu. Si nous définissons notre ordre à nous, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des échecs. Et si nous suivons l'ordre de Dieu, eh bien, nous pouvons avoir des réussites. Donc, un ordre relationnel, d'ordre spirituel, qui se retrouve au sein de la Trinité. La Trinité, c'est quoi? C'est pas écrit dans la Bible, mais c'est un concept qui explique qu'il y a Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et entre ces trois personnes, il y a une relation d'amour. On retrouve le sandwich où l'amour est celui qui unit l'ensemble des fonctions. Mais il y a des fonctions différentes. Il y a la fonction du Père, initiateur, créateur, qui prend l'initiative, qui a conçu le plan de rédemption pour l'humanité, et le Fils, qui l'a réalisé. Le Fils, qui par sa soumission au Père, a pu faire aboutir le plan de rédemption. Grâce à la soumission du Père, du Fils au Père, nous sommes sauvés. Dans cette relation d'amour où le Père et le Fils s'aiment, et là Jésus a longtemps et plusieurs fois prêché là-dessus, eh bien nous avons un modèle de communication, un modèle de relation entre des personnes. Sans parler du Saint-Esprit qui a été envoyé pour remplacer Jésus, pour nous rappeler toutes ces choses, etc. Donc vous voyez, dans cette relation, c'est un ordre spirituel, c'est un ordre, quelque chose qui est modelé pour nous montrer que entre des personnes, il faut qu'il y ait un ordre qui soit respecté. Et bien là, l'apôtre Paul, dans ce passage que nous venons de lire, malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur des apparences, eh bien, il décrit l'ordre relationnel dans l'humanité. Comment ça doit fonctionner? Et le fonctionnement, simplement, il le rappelle ici. Il dit que tout homme, il dit Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Le problème, c'est que quand nous lisons la Bible, nous trouvons des mots qui sont utilisés dans d'autres contextes, et on pense que le mot veut dire qu'une seule chose, hein, le chef, on veut pas de chef, voilà, donc on est contre le chef et tout ça. Mais il faut voir l'étymologie des mots. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce qu'un mot a été galvaudé, utilisé de manière mauvaise qu'il faut rejeter les mots. Chef, ça veut dire tête. OK? Et la tête. Est-ce que votre tête elle est mauvaise? Si vous aviez pas de tête, vous seriez mal. Donc vous respectez votre tête, ok? Ben, la tête, c'est très noble. Hein, c'est de là que viennent tous les ordres, c'est de là que viennent toute la réflexion, c'est de là que viennent tous les mouvements que vous faites, etc. Il y a beaucoup d'autres choses dans le corps qui, s'il n'existait pas, vous pourriez pas vous mouvoir. Hein, on est d'accord. Mais la tête, c'est important. Donc on respecte la tête. Et bien là, les questions de la tête, Christ et la tête. Et ensuite, le mari est la tête de la femme. Donc, il y a des fonctions différentes. Voyez-vous? Alors, je sais que ça heurte beaucoup de gens parce qu'ils ont mal vécu leur vie. Pas forcément de leur faute. Mais donc, ils associent des jugements de valeur. Voyez-vous? Or, on n'est pas en train de parler de jugement de valeur. La valeur, elle est la même entre l'homme et la femme. Mais la fonction, la valeur de la fonction est différente. La tête, elle a une autre fonction que le corps. Alors? Et c'est tout simplement ce que l'apôtre rappelle et qui nous est décrit dans la Genèse. La tête, l'homme a été créé, il doit être la tête. Et la tête, c'est une responsabilité. C'est pas simplement un privilège. Tout le problème, c'est que l'homme, il se prend la tête à être machiste, ok? C'est ça le problème. Mais c'est pas la faute de Dieu. Si l'homme se veut être un macho, hein, qui veut dominer, qui veut utiliser des privilèges pour lui, c'est son problème, c'est pas le problème de Dieu. Pardon? D'accord? Et c'est là le problème. Il faut bien que vous compreniez la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous décrit un ordre spirituel qui est bon. Et après, nous voyons des choses que les hommes font et qui sont mauvaises et on rejette ce que font les hommes. Là, on est en train de voir la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu a créé une tête qui est l'homme, le mari dans le couple, qui doit être la tête. Et c'est pour ça aussi qu'on fait les réunions d'hommes et on souhaite qu'il y ait des jeunes hommes qui viennent pour apprendre à être la tête. Ça ne s'apprend pas comme ça, à être la tête. C'est pas comme ça, c'est pas inné. Hein. Les juifs d'ailleurs l'ont bien compris et il vaudrait mieux s'inspirer de la civilisation, de la société juive que de la société païenne dont nous faisons partie, même si elle est chrétienne mais elle est 80% païenne. Les juifs, eux, ils ont été enseignés dans la parole de Dieu, et à 13 ans, eh bien un garçon, eh bien il est pris en main par son père, il est soustrait à sa mère pour qu'ils puissent rentrer dans la société, qu'ils puissent apprendre à devenir un homme, à être une tête. C'est pour ça que les jeunes hommes venaient dans le réunion d'hommes, parce que je ne vois pas comment vous pouvez apprendre uniquement votre mère à être des hommes. C'est pas possible. C'est pas possible. La tête, c'est quelque chose d'important qui apprend un, être responsable, qui apprend à initier des choses, qui apprend à initier des projets, qui apprend beaucoup de choses à apprendre pour être un homme tel que Dieu l'a prévu. Donc la fonction de l'homme qui doit diriger est absolument vitale et c'est combattu par le monde. C'est combattu. Maintenant, l'homme, bien, il est mis de côté dans beaucoup de domaines parce que, eh bien, c'est la rébellion contre Dieu. C'est Satan qui est derrière. Il ne faut pas oublier que Satan est derrière toutes les sociétés qui veut dégrader, mettre sous son emprise. Et la femme est aide et soutien. Elle est soutien à cette tête. Mais c'est pas une valeur dégradée de la fonction. Sinon, ce serait juger Dieu d'avoir choisi ça. C'est une façon très très noble d'être une aide et un soutien. Et sans la tête et sans le soutien, la tête elle ne peut rien faire. Vous prenez une tête, vous la coupez, vous la mettez là, eh bien, elle peut rien faire. Ok? Non, mais il faut être réaliste. Il faut la tête et le corps. Et c'est aussi important les deux. Voyez-vous? Donc, nous mettons une valeur à la tête et une autre valeur au corps, et c'est aberrant. Et dans l'Église, c'est souvent aussi ça le problème, c'est que tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut le ministère de la parole, tout ça. Comme si c'était un privilège. C'est pas un privilège, mes frères et sœurs. C'est une responsabilité. Parce que celui qui prêche sera jugé beaucoup plus sévèrement que tous les autres. Donc, faisons attention aux influences du monde qui modèlent notre pensée. La parole de Dieu dit que l'homme doit être la tête et la femme doit être le corps, l'aide, le soutien. Mais de manière intersoumise par l'amour. C'est pour ça, l'amour, c'est le sandwich. C'est au milieu. C'est dans l'amour que les choses doivent se faire. Ce n'est pas en imposant, ce n'est pas en martelant, ce n'est pas en faisant toutes sortes de simagrées, c'est dans l'amour. Et notre modèle, c'est Christ. Si vous prenez Philippiens, on le lit très souvent au moment de la Sainte Cène, mais si on prend les versets précédents de Philippiens 2, voilà ce qui est dit. L'apôtre dit, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était Dieu, vous êtes d'accord? Vous croyez que Jésus était Dieu? Certaines églises, les chrétiennes, ne le croient pas. La Bible dit que Jésus était Dieu, avant qu'il vienne. Or, Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher à être l'égal de Dieu. Très souvent, dans le ministère féminin, quand la femme a la parole, elle arrache carrément, parce que, en fait, ça lui est pas donné naturellement, j'explique pas le phénomène psychologique, il est là. Elle arrache carrément d'être une proie. Et là, c'est horrible. Tous les pasteurs à qui vous parlez, une femme qui prêche ou qui a un ministère et qui le fait, simplement parce que Dieu lui a demandé et qu'elle le fait, ça passe très bien et c'est édifiant. Mais quelqu'un qui arrache à être une proie pour être égal, c'est exactement l'inverse de ce que Jésus a fait. Et on n'est plus dans le modèle de la Bible. Mais, ceci étant, c'est le péché qui fait tout ça. Mais nous devons être lucides et être sur la parole, et pas sur ce que le monde nous montre ou que l'Église nous montre. Christ n'a pas revendiqué à être égal. Alors, pour ce qui concerne le port du voile de la femme, il y a quelque chose, une clé aussi, ce verset, où il est dit à la fin de ce chapitre 11, enfin verset 15, c'est une gloire pour la femme de porter des cheveux. Donc déjà, les cheveux, en soi, sont un voile pour la femme. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu a tiré l'homme de la poussière. Okay, l'homme était tiré de la poussière. C'est pour ça qu'il s'appelle... Il s'appelle comment? Adam. Pourquoi Adam? Abigail. Parce que Adama, c'est terre. Il est tiré de la terre, de la poussière. Simplement l'origine, son origine, c'est de la terre. Dieu l'a créé, il a pris de la terre, et c'est Adam. Puis il est tiré de la terre, et il retournera à la terre, il retournera à la poussière. Ève, comment est-ce qu'elle a été conçue? De la terre? Du côté d'Adam, d'une partie d'Adam. Mais vous, l'origine n'est pas la même. tout ça, ça a un sens. Tout ça, ça a un sens. La fonction de la femme, la fonction du féminin, n'est pas le même que la fonction d'Adam, de l'homme. L'homme était tiré de la terre. Il est redevable à Dieu directement, à Christ. Et donc, il doit, tout en étant la tête, être soumis à Christ. Et un homme ne peut être un homme que s'il apprend la soumission à Christ. Il ne peut jamais être machiste. Même dans l'Église, si un homme est machiste, il n'est pas dans le plan de Dieu, il n'est pas en communion avec Dieu, c'est pas possible. Il est peut-être en partie, hein, il y a des pourcentages de chair et d'esprit, hein, mais il n'est pas en esprit, parce que c'est absolument en dehors de l'idée de Dieu. Le machiste qui veut soumettre sa femme ou soumettre le féminin à son autorité, à sa tête, eh bien c'est pas du tout comme ça que fonctionnent les personnes dans la Trinité. Jésus n'a pas imposé, il aurait pu, il était Dieu, il aurait pu guérir n'importe quel malade, mais il a guéri que ce qu'il voyait faire au Père, ce que le Père, une entière soumission. Et grâce à cette entière soumission, il nous montrait un exemple comme quoi, eh bien, il pouvait recevoir l'autorité. Pourquoi il a reçu l'autorité du Père? Parce qu'il a démontré qu'il pouvait parfaitement être soumis à son Père. Et de la même manière, un homme peut pas être machiste. S'il est machiste, si vous voyez des aspects machistes, eh bien, c'est qu'il n'est pas dans l'esprit. Parce que il est conscient que tout dépend du Christ. Et c'est dans sa relation avec Christ qui va faire de lui quelqu'un qui peut être honorable, qui peut être respectable, qui peut être une autorité, qui peut dire quelque chose qui a de la valeur. Donc, les notions de ce que nous donne la parole, ce sont des notions de responsabilité et de relation avec Christ. La relation, donc, il convient que l'assemblée chrétienne, et là on revient au chapitre 11 de Corinthiens, où l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, son idée, ce qu'il est en train de passer comme message, il veut que l'Église, ou l'assemblée chrétienne, ou le rassemblement des chrétiens, comme nous ce matin, il veut que cette église reflète ces fonctions différentes. Pour montrer quel était le but premier de Dieu dans sa création. Et donc, il faut que dans une assemblée chrétienne, comme la nôtre, comme dans toutes les assemblées chrétiennes, il faut que ce soit visible qu'il y ait un côté masculin et un côté féminin qui sont bien distincts, avec la même valeur, mais des rôles et des fonctions différentes. Et que ça apparaisse devant le monde visible et invisible. C'est pour ça que le spirituel est premier, parce que même les anges doivent être conscients. Alors bien sûr, cette interprétation aussi a plusieurs façons de refléter une réalité. Mais là, je ne vais pas rentrer dans l'exégèse de ces passages-là. Mais le monde visible et invisible doit voir cet ordre et ses fonctions exercées différemment. Donc la compréhension spirituelle de ces choses exclut toute considération charnelle de supériorité ou d'infériorité. C'est pas la question. C'est pas supérieur ou inférieur. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. La relation, c'est une question de relation. La relation qui unit les personnes de la Trinité exclut toute infériorité, supériorité, vous en êtes convaincus. Et c'est librement que Christ est parfaitement soumis au Père. Il l'a fait librement, par amour. Et chacune des personnes de la Trinité a un rôle spécifique, précis. Et la soumission de l'homme à Christ, ou la soumission de l'épouse à son mari, ainsi que sa soumission à l'ordre établi par Dieu dans l'Église, eh bien, sont le reflet de la soumission aimante de Jésus au Père. Là où règne l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, et le Seigneur est doux et humble de cœur. Et ça doit refléter dans celui qui est la tête, l'homme, être doux et humble de cœur. Reste-t-il la moindre trace de revendication agressive du féminisme de ce monde, ou de la domination masculine, des hommes machos, autosatisfaits et oppresseurs? Non. Il reste l'esprit doux et humble de cœur. Le deuxième élément du sandwich, à Corinthiens 14, parle du rôle, hein, de l'ordre, hein, de l'ordre dans l'Église. Hein. Et l'apôtre dit dans ce passage, quand il parle de l'ordre, hein, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à Dieu, etc. Et ensuite, il dit, comme dans toutes les églises des saints, comme que les femmes se taisent dans les assemblées, etc., il n'est pas permis d'y parler. Est-ce que là, ça veut dire que les femmes n'ont pas le droit à la parole? Une lecture immédiate, c'est ce que on déduit. Et certaines églises le lisent comme ça. Mais quand vous avez compris 1 Timothée 2, parce qu'effectivement, mettre ce verset-là en rapport avec celui-là, ça veut dire qu'il y a deux versets qui disent que la femme doit se taire. Mais étant donné que là, je vous ai dit que ça n'a rien à voir avec le fait que la femme doit se taire, bien que dans vos Bibles ce soit marqué comme ça, mais qu'ici, ça veut dire que la femme ne doit pas enseigner que la femme est source, origine de l'homme, mais que c'est bien l'homme qui est source, qui est tiré de la terre, etc., l'enseignement biblique. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de se taire. Et ici, il faut bien voir que cette église de Corinthe, comme on l'a vu, qui était remplie de désordre, en fait, l'apôtre voulait absolument dire qu'il fallait de l'ordre dans l'église. Et que les femmes ne prennent pas la parole comme ça, comme elles ont l'habitude de faire dans certains cénacles, hein, en particulier dans ces sectes qui sont des sectes gnostiques où les femmes étaient des prêtresses, hein, donc elles prenaient la parole et représentaient la divinité de la mère, justement, du ciel, la reine du ciel. Donc, en fait, elles prenaient la parole, etc. Et elles prenaient l'habitude de le faire dans les églises de Dieu. Et l'apôtre remet les choses en ordre, disons non. Qu'elles s'instruisent en silence et qu'elles demandent à leur mari à la maison, mais qu'elles respectent cet ordre, hein, qui doit être dans un culte parce qu'il est malséant, hein, de se comporter de telle ou telle manière. Voyez-vous, donc la bienséance fait que, eh bien, il faut simplement respecter cet ordre. Je vous ai dit, j'ai pas pu faire une exégèse, hein, donc je vous donne simplement les grandes lignes de ce que je crois comprendre dans l'Écriture. Je voudrais dire, à partir de ces textes-là, je dirais que pour moi, tous les ministères sont ouverts au féminin, sont ouverts à la femme, sont accessibles, tous les ministères. Hein, ministère, ça veut dire enseignement, ça veut dire prophétie, ça veut dire service, etc. Et on retrouve ça, et d'ailleurs la plupart des commentateurs bibliques le reconnaissent, que dans toute la Bible, on voit que la femme peut exercer n'importe quel ministère. Moi, je dirais que il y a quand même un rôle à quel elle ne peut pas accéder, c'est celui d'ancien. Et là, il faudrait refaire un peu une exégèse sur le mot ancien. Mais le mot ancien n'est pas accessible aux femmes parce qu'il est réservé là à l'homme. Pourquoi? Parce que le rôle d'ancien, c'est pas une fonction. C'est un titre, c'est une position, hein, position d'ancien. Pierre dira, moi, apôtre et ancien. Ou il y a un évangéliste ancien. L'ancien, c'est une position. Okay, c'est la position de l'autorité de chef, de tête, si vous voulez. Et dans toutes les églises, là, que ce soit les églises épiscopaliennes comme la nôtre, ou collégiales de frères ou autres, on reconnaît tous que c'est un collège d'anciens qui doit être à la base d'une église. Et ensuite, après, le mot épiscopos, surveiller, peut dire qu'à partir d'anciens, il y a le primus inter pares, le premier d'entre les pères, qui peut être un pasteur principal. C'est la compréhension d'une église épiscopalienne comme la nôtre, un pasteur principal. Mais ce pasteur principal, il est simplement là pour fédérer une présidence, pour conduire les choses, pour qu'il y ait une tête. Mais ceux qui sont que des frères, bon, il y a d'autres inconvénients, il y a toujours des inconvénients à une organisation, mais peu importe. Mais c'est les anciens qui doivent être là. Et je dirais que si une femme, aujourd'hui on nomme des femmes pasteurs, et ça, j'ai pas de problème, mais des pasteurs de jeunes, des pasteurs de toutes sortes, dans une église de 1000 membres, vous avez besoin de beaucoup de pasteurs. Hein. Pasteur, ça veut dire veiller sur le troupeau ou sur une partie du troupeau. Vous avez 1000 ou 10 000 membres, vous avez forcément des groupes. Hein. Une personne ne peut pas veiller sur 10 000 personnes. Donc forcément, il y a des pasteurs. Et la pasteur, c'est une fonction. c'est une fonction. C'est prendre soin. C'est prendre soin des brebis. C'est de les conduire vers des pâturages, les enseigner, etc. Et les femmes le font très bien, en particulier avec les enfants. Mais il ne faut pas que ce soit réservé qu'à des enfants. Regardez Joyce Meyer, ça ne reste pas qu'à des enfants. Hein. Donc, la fonction, c'est une chose. Le rôle, c'est différent. Ancien, c'est une autorité qui, simplement par sa présence, va garder les portes. Et là, il faudrait que je vous donne les références dans Ésaïe. Hein. Je crois que c'est dans Ésaïe qui a ces passages d'anciens. Hein. Dans les Proverbes 8, 34 et 31, 23. Le rôle des anciens, c'est de veiller aux portes. Et dans toute civilisation, et en particulier les juives, il y avait des portes hein, pour garder la communauté. Et là, il y avait des anciens. Il y avait des personnes qui des hommes, hein, pas des femmes, mais des hommes, qui eux établissent cette responsabilité sur leur communauté, donc dont ils se sentent responsables. Et c'est le rôle des hommes de cela. Aujourd'hui, pourquoi des femmes sont obligées de prendre la tête, parfois, c'est parce que les hommes ont démissionné. Et tout. Donc, c'est le problème de la démission des hommes qui pose problème. C'est pas le problème que les femmes soient obligées. Par exemple, dans Foursquare, nous avons deux femmes pasteurs qui sont pasteurs principales. Une, d'ailleurs, c'est Nathalie qui va venir en novembre, là. Elle a jamais voulu, mais bon, son pasteur est pas son mari est pas très, très facile de parole et tout ça. Donc, il la soutient complètement, comme Joyce Meyer. D'ailleurs, le mari de Joyce Meyer est derrière elle et c'est elle qui la couvre, qui la coach, qui prend les rendez-vous et tout ça. Et là, c'est pareil. François, c'est pareil. Parce que, il dit, non, toi, tu as reçu cet appel de parler, de s'exercer. Mais il le fait sous l'autorité de son mari. Et à Bordeaux, c'est pareil. Marie-Lise, elle le fait parce que son mari a des graves problèmes de santé. Il a dirigé l'église et elle est obligée de le faire un peu par défaut. Et je crois que c'est une situation juste. Ceci étant, je ne juge pas d'autres, églises qui font autrement. Je dis simplement ma conviction, c'est que je pense que il faut que les rôles soient respectés. Et celui d'ancien n'est pas accessible aux femmes. D'ailleurs, presbytéros, c'est masculin, et presbytera n'est utilisé qu'une seule fois dans la Bible pour des femmes âgées, pas pour des femmes ayant une responsabilité dans une église ou autre. Donc presbytera n'est jamais utilisé pour un rôle d'ancien dans une église. Mais tout cela doit se faire dans l'amour. Voyez-vous ? C'est l'amour qui permet que tout cela fonctionne du mieux possible, puisqu'il n'y a pas de perfection en la matière. Nous sommes humains, du mieux possible. Il faut qu'il y ait une intersoumission, et c'est pour ça que dans Éphésiens, très souvent, on prend la lecture du passage « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais le verset qui précède, qu'est-ce qu'il dit ? Soyez soumis les uns aux autres. Et celui-là, parce que très souvent dans les Bibles, vous avez un rappel du devoir des époux. Mais au-dessus, c'est soyez soumis les uns aux autres. C'est ça le principe fondateur. Comme dans Galates, il est marqué ni homme ni femme. C'est le principe fondateur, soyez soumis les uns aux autres. C'est pas parce que le mari est la tête qu'il doit commander de manière autoritaire et de manière imposante. Non, il faut que ce soit dans l'amour. Donc il faut une réciprocité dans l'écoute, dans la compréhension, dans la marche ensemble, mais il faut que les rôles soient respectés en finale. Et donc c'est cette problématique qui est très difficile à trouver chez les chrétiens, entre autres. Et donc on abandonne un petit peu, et on reprend les vieux habits païens, hein, où c'est le machisme ou le féminisme, etc. Et là, on crée des tensions dans les relations. Les hommes ne doivent pas démissionner de leur responsabilité au profit des femmes. Ça, c'est important. C'est pour ça que j'insiste tellement pour les réunions d'hommes, pour qu'on apprenne à céder entre... Hein, je vois que Antoine est rayonnant parce qu'il était fidèle, hein, fidèle en réunion d'hommes quand il était là, parce qu'il il envoyait la valeur. Hein, c'est vrai, hein, ça t'a beaucoup aidé. Voilà. Parce que être un homme, c'est pas facile. Et aujourd'hui, on n'a pas de modèle. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans des postes. Et j'ai rien contre les femmes. Au contraire, je vous dis, la Bible est ouverte à tous les ministères féminins. Simplement, il faut que l'homme garde son rôle. Sinon, on tombe dans le matriarcat. La mère qui prend les choses en main. Et je vais vous dire une chose. J'ai étudié un peu le matriarcat. Hein, parce que les féministes disent, oui, mais le patriarcat, on en a marre, c'est les patriarches et tout ça. Bon, j'y peux rien. c'est Dieu qui a parlé à des pères pour les établir, soit Abraham, Isaac, Jacob, etc. On voit la notion du patriarcat. Et Dieu, il est père. Hein. Même s'il a un cœur de mère, il est père. Il est présenté comme un père. Okay, ne l'oublions pas. Et le matriarcat, c'est simplement une rébellion contre Dieu. C'est une rébellion. Parce qu'on ne veut pas ce que Dieu établit, donc on veut établir le matriarcat. Et le matriarcat, c'est la mère qui donne le nom. C'est pas le père qui donne le nom. C'est important. La mère donne le nom. Son nom. Elle transmet le nom. Et quand vous regardez comment fonctionne une structure matriarcale, vous voyez que la mère, elle encourage le vice. Au niveau de la luxure, elle prépare une chambre pour sa fille, pour que tous les hommes puissent venir, mais le matin avant l'aube, il doit partir, parce qu'en fait, elle peut avoir autant de relations qu'elle veut, parce que ce qui est important, c'est la mère, hein, qui est à la base du matriarcat. Et ça, quand vous regardez sur le plan spirituel, ça a commencé avec Caïn, ensuite avec Nimrod, et la religion de la mère et l'enfant, qui est à la base. Et ça, c'est en train de pousser en ce moment. Et la France, d'ailleurs, est dans une situation ambiguë. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi on dit la mère patrie ? Étonnant. La mère patrie. La patrie, père. Hein ? La mère patrie. Hein ? Est-ce qu'il y a toujours l'idée de la mère ? Il faut la mère. Mais la mère, c'est du panthéisme. Parce que, bien sûr, la mère, elle donne naissance naturellement. Oui, mais qui est-ce qui donne la vie ? C'est Dieu. Et tous ceux qui sont dans ce matriarcat, ils adorent Ève. Ève, c'est leur adoration. Hein, parce que c'est Ève qui a donné la vie. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces enseignements gnostiques sur l'origine de la femme qui donne la vie. Parce que Satan utilise ce moyen pour nous égarer. Il faut que nous soyons ancrés dans la parole de Dieu. Et moi, je souhaite que dans cette église et dans toutes les églises, il y ait des hommes qui assument leurs responsabilités, qui soient là comme des piliers, comme des colonnes. Vous voyez, quand on les regarde, il y a de l'assurance. Ils n'ont même pas besoin de parler, parce que la doctrine, c'est pas simplement l'enseignement parlé, c'est ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous représentons comme être. Et là, il faut vraiment prier pour que les hommes se lèvent, qu'ils ne laissent pas... C'est facile hein, de dire oh, bah, la femme n'a qu'à faire ça, la femme n'a qu'à faire ça, etc. C'est une démission. Hein. Non, il faut qu'on. Mais en même temps, il faut que ce soit dans l'amour. Il ne faut pas que ce soit dans la tyrannie, dans l'autocratie. Et c'est pour ça que ce sandwich spirituel, je vous le laisse à votre réflexion, c'est dans l'amour. Que tout se fasse dans l'amour. Et dans la soumission les uns vis-à-vis des autres. Et c'est ça le principe que l'apôtre veut passer, malgré les choses qu'on lui attribue, qu'il ne voulait pas dire. Mais il faut bien se pencher sur les textes et sur le contexte pour voir que, eh bien, la Bible n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Et Dieu veut que nous puissions vraiment travailler ensemble. Et moi, je crois que, moi, je suis pour le couple pastoral, où il y a l'expression de l'homme et de la femme dans une relation d'amour ou de soumission. Bon, des tensions, mais on les résout. Et ça peut être un modèle aussi pour les chrétiens de l'Église, pour voir comment le couple pastoral se comporte. Et je sais qu'on a une responsabilité, hein, je suis conscient de cela. Mais en même temps, eh bien que le Seigneur nous aide à être des modèles pour notre société qui est en recherche et qui vacille du machisme au féminisme, hein, sans trouver vraiment l'équilibre, qui est en fait un équilibre divin, qui ne peut être accessible que par l'Esprit de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions parce que, Seigneur, c'est toi qui as créé toutes choses, c'est toi qui as créé l'homme et la femme, c'est toi qui as créé les personnes que nous sommes. Et Seigneur, tu as modélisé ces relations toi-même pour que nous ayons un modèle. Et le modèle, c'est Jésus-Christ. Seigneur, toi qui étais Dieu, qui n'a pas revendiqué, mais qui t'es soumis en toutes choses au Père, Seigneur, tu nous montrer que dans une relation d'amour, on peut vivre vraiment tel que toi tu as prévu que nous le vivions. Seigneur, aide-nous chacun à notre niveau à vivre ces choses telles que tu le veux et que nous puissions vraiment, Seigneur, nous humilier devant toi et marcher dans la vérité de ta parole. Nous prions au nom de Jésus.